nous dit « Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. » Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir, nous sommes le 10 septembre, il est 19h03 et vous êtes bien sur le premier Canu Info de la nouvelle saison. Alors aujourd'hui, à l'international, on va parler de la légalisation de l'homosexualité en Inde, puis de ce qui se passe en Syrie, avant d'aller du côté du Mexique où le mouvement étudiant se fait de nouveau réprimer. Enfin, on parlera des élections européennes et de Macron qui prétend s'opposer aux politiques d'Orban et Salvini. Puis, on parlera des gauches radicales européennes qui commencent à s'énerver un peu sur l'immigration. Ensuite, au national, on va discuter des trop nombreux morts de cet été tués par la police. Enfin, de nouveaux projets d'ouverture de la RATP à la concurrence. Puis, de ce matin, l'évacuation de la ZAD de Strasbourg. Et enfin, on finira au local sur un petit retour sur la marche sur le climat de ce samedi. Puis un petit état des lieux de ce qui se passe avec l'accueil des migrants qui est toujours aussi compliqué en ce moment. Et enfin, on accueillera un camarade de la CGT Cheminot pour discuter de la répression suite au mouvement de l'année dernière. Et on commence tout de suite avec la légalisation de l'homosexualité en Inde.
Et oui, on entend là, en Inde, ce 6 septembre, la Cour suprême vient d'abolir l'article 377 du Code pénal qui criminalisait l'homosexualité qualifiée de sexe contre nature, qui était passible de peine de prison, qui n'était plus tellement appliquée, mais qui laissait place à un harcèlement policier. Alors tout de suite, en Occident, évidemment, l'accueil de cette abolition a été particulièrement raciste et orientaliste à partir du schéma qu'on connaît bien. L'Occident, c'est les droits humains, c'est la liberté, c'est la civilisation. Et ces barbares d'Indiens qui réprimaient encore l'homosexualité, ils rattraperaient encore, enfin, un peu leur retard sur nous. Sauf qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse qui vient de se passer. Et pour comprendre cela, petit cours d'histoire. En Inde, la criminalisation de l'homosexualité, ça date de la colonisation britannique. La catégorie même d'homosexualité, elle s'est développée au 19e siècle, et les colonisateurs britanniques, notamment dans l'armée, ils constataient que ça baisait sec parmi leurs soldats envoyés là-bas, et ils percevaient l'homosexualité des leurs comme la conséquence d'une perte de repères moraux due à un trop long séjour en Orient, entre guillemets. Ils ont donc fait des rapports homosexuels un délit, en premier lieu entre eux, et aussi ensuite pour les Indiens, lorsque, en 1861, le code des lois britanniques a été imposé à l'Inde. Était donc puni de prison la sodomie entre mecs, et plus largement l'ensemble de la sexualité entre mecs, puisque comme souvent, la loi ignorait superbement le lesbianisme, ce dernier n'étant pas perçu comme une sexualité par ses cons de mecs. Avant la colonisation, d'autres types de sexualité qu'entre mecs et meufs existaient en Inde, sans forcément qu'elles soient interprétables selon les catégories contemporaines et occidentales d'homosexualité, même si pas non plus tomber dans le biais orientaliste inverse, qui verrait dans l'Inde précoloniale un paradis cuir. Évidemment, des répressions existaient aussi avant la colonisation, à l'endroit de ces sexualités minoritaires. Fin du petit cours d'histoire. Donc ce qui s'est passé ce 6 septembre, c'est l'abolition de cet article 377 du Code pénal, qui criminalisait l'homosexualité. Et ça, c'est le résultat d'un mouvement de fond, d'un mouvement social LGBTI qui a été un combat de longue haleine mené depuis plusieurs décennies dans les rues en Inde. Cet article avait en effet déjà été aboli en 2009 avant d'être réintroduit en 2013 par la Cour suprême. Ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement nationaliste hindou, qui est actuellement au pouvoir sous la férule de Narendra Modi, ce ne s'est pas vraiment mouillé dans ce combat, et que ce courant nationaliste hindou qui est en ce moment au pouvoir en Inde est assez volontiers sexiste, viriliste et homophobe, et représente l'homosexualité comme un vice qui viendrait de l'étranger, soit parce que ça résulterait de la colonisation britannique, on ne sait plus trop d'où ça vient, c'est pour les Britanniques ça venait des Indiens, pour les nationalistes hindous ça vient des Britanniques, soit ça viendrait non pas des hindous, mais de cet étranger de l'intérieur contre qui lutte le nationalisme hindou, à savoir la population musulmane. C'est donc aussi le mouvement et le gouvernement nationaliste hindou qui a œuvré à l'effacement et à la répression des sexualités dissidentes, à la fois dans l'Inde actuelle et dans une représentation fantasmée de l'Inde précoloniale. Cette abolition de l'article 377, c'est donc une victoire, au moins juridique, pour le mouvement social LGBTI indien. Et on ne peut qu'espérer que cette victoire ait un effet domino, hein, puisque comme nos camarades de la Manif pour tous l'ont bien vu, nous autres, les TPG, quand on nous donne ça, on demande ça. Et en effet, le gouvernement de Singapour vient d'annoncer, suite à cette décision de la Cour suprême indienne, qu'il pourrait suivre cet exemple indien et que va être prochainement discutée une dépénalisation de l'homosexualité, qui était pénalisé là-bas, au miracle aussi, depuis la colonisation britannique.
Et maintenant, on va discuter de ce qui se passe un petit peu en Syrie.
Alors, c'est parti. Les frappes ont repris à Idlib. Idlib est le seul bastion rebelle qui échappe au régime d'Hamas, situé dans le nord-ouest du pays, près de la frontière turque. Des hélicoptères de l'armée de l'air russe et syrien ont largué des barils explosifs sur les villages d'Al-Abi et d'Abden, trouvant au sud de la région. Dans d'autres villages aussi, les habitants ont connu, si vous voulez, ces bombardements, ces catastrophes. Ces bombardements ont touché des dizaines de bâtiments, 2 enfants ont perdu la vie et 9 autres personnes ont été blessés dans ces bombardements. Des innocents meurent et le monde observe. N'a-t-il pas raison quand Abdel Kassem Saïd dit que le monde devrait se poser des questions ou s'élever contre ces crimes contre l'humanité? Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui ce qui se passe en Syrie, c'est contre l'humanité? Voilà des questions qui se posent. Oui, des questions. La unique question qui est déjà posée maintenant, c'est quand maintenant ces institutions fantômes pourrait répondre à ces crimes qui sont commis, si vous voulez, en Inde. Oui, certains vont dire qu'ils sont en train de nettoyer des groupuscules des djihadistes dans cette région. Mais ils oublient souvent de se demander pourquoi c'est toujours les civils qui sont victimes. Selon France 24, des avions russes auraient frappé des villes, notamment Kafar Zayt, également situé au nord de Hama. Aujourd'hui, 2,9 millions de personnes habitant dans cette province du nord-ouest de la Syrie ne dorment plus, ne sachent plus où aller. Le monde observe, eux, ils observent le monde et son humanité. À écouter les discours des uns et des autres, À entendre des déclarations des acteurs impliqués dans cette guerre, on se demande qui est contre ou qui n'est pas contre. Alors, on peut citer quelques-uns parce qu'on a vu, il y a eu une conférence, une rencontre entre les trois présidents concernés, notamment Poutine et Bachar al-Assad. Quand ceux qui soutiennent Bachar al-Assad disent qu'ils vont continuer à soutenir, à bombarder, si vous voulez, le territoire occupé par les djihadistes afin de récupérer l'ensemble du territoire, alors on peut dire. Alors que le monde entier, une partie du monde, désolé, j'arrive, jusqu'à l'ensemble du territoire, alors qu'une partie de l'humanité condamne ce dernier, puisqu'il est à la base responsable de tout ce qui se passe et tout ce que la population traverse actuellement en Syrie. Et en face d'eux, on voit aussi un président qui soutient le groupe armé, des djihadistes qui font des attentats et massacres des civils. Oui, on se pose la question, qui est contre, qui n'est pas contre. La bataille d'Ileb est à la une de plusieurs médias internationaux, notamment la Croix, qui indique que cette bataille est une question de vie ou de mort pour les djihadistes étrangers. Selon le quotidien, ces djihadistes ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'atterrir en Syrie. Ces hommes venus des pays étrangers seraient prêts à se battre jusqu'au bout pour défendre la province d'Ileb, leur ultime bastion trouvant dans ce pays. Il faut rappeler que depuis 2015, Ileb abrite plusieurs groupes d'armées anti-Assad, des rebelles modérés, des islamistes, des djihadistes syriens ayant leurs liens avec Al-Qaïda et leurs homologues étrangers. Parmi eux, nous savons, il y a des djihadistes étrangers qui ont fait leur expérience ailleurs, notamment des combattants de l'Ouzbékistan, de Tchétchénie et de la région autonome Ouïghouri, en Chine, dominée par une communauté...
Ouïghour, tu voulais dire.
On dit les Ouïghours.
Ok, ne me laissez pas toute seule parce que j'arrive pas à prononcer le terme. Et donc, tous ces groupes armés aujourd'hui ont pris direction pour arriver dans cette région, pour notamment défendre. Aujourd'hui, la population qui vit là-bas, elle se demande, on sait qu'elle dort, elle dort pas, et aujourd'hui, elle observe tout le monde, elle observe le monde entier. Ce qu'on peut dire, que cette bataille a commencé, mais on ne sait pas quand elle prendra fin, puisqu'on a vu la guerre qui dure depuis 2011. Donc, il y a vraiment une catastrophe qui se passe actuellement en Syrie. On peut dire, d'après l'ONU, 800 000 personnes, si réellement cette offensive continue, 800 000 personnes déplacées et va provoquer aussi une catastrophe humanitaire, prévient les Nations Unies. Malheureusement, le maître du jeu a déjà pris cette décision pour une fois. Il va continuer jusqu'au bout.
Et pour continuer dans les nouvelles réjouissantes du côté du Mexique, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais la répression s'abat de nouveau sur les étudiants. Alors, pour rappel, depuis le grand mouvement de 99-2000, ils sont régulièrement les cibles de milices armées autant que de la police. En fait, ces milices armées sont simplement les hommes de main, soit de grands patrons, de partis ou des autorités universitaires. Et ils subissent cette répression de plein fouet. Ce fut le cas, par exemple, en 2014, quand 43 étudiants avaient été assassinés à Ayotzinapa. Donc, ils allaient manifester contre le gouvernement et les politiques, notamment d'austérité à l'université. Et la police les avait, en fait, livrés à un cartel particulièrement violent qui avait donc assassiné les 43 étudiants. Comme souvent, en fait, le pouvoir politique au Mexique, il utilise des groupes armés paramilitaires pour faire taire toute forme de contestation. Ces groupes-là s'appellent les poros, et c'est de nouveau ce qui s'est passé ce 3 septembre, alors que les étudiants de l'UNAM, c'est la grande université de Mexico, les étudiants du Colegio de Ciencias y Humanidades s'étaient réunis devant le rectorat, et ils ont été attaqués par une centaine de poros extrêmement violents et armés. 14 camarades ont dû être hospitalisés, dont 4 dans un état grave. Ça n'a pas entaché la mobilisation, puisque le 5 septembre, ils étaient plus de 200 000 à manifester dans les rues de Mexico contre la répression, le manque des moyens, les provocations et la répression permanente de la direction de l'université, qui, bah, par exemple, cet été avait fait repeindre l'ensemble des fresques réalisées par les étudiants mobilisés depuis des années, et notamment celle en hommage aux morts d'Ayotzinapa. Donc, loin de vouloir dissoudre ces groupes de poros, pourtant particulièrement violents et dangereux, l'administration encourage en fait ces pratiques en maintenant un peu la confusion autour de qui sont les gentils et les méchants. Donc, certains professeurs en fait et personnel administratif ont des liens avec ces groupes-là, et il semblerait que la direction de l'université ait un peu livré en pâture des noms de camarades à la presse mexicaine en prétendant qu'ils faisaient partie des poros. Du coup, tourne dans les médias des articles particulièrement diffamants, alors même que 14 camarades se sont retrouvés dans des situations particulièrement critiques suite à ces attaques. L'université n'a pas du tout l'air encline à dissoudre ces groupes. Elle refuse de donner les informations autour des véritables auteurs des agressions. Donc dans la presse, je le disais, il y a des noms de camarades qui ont été livrés en peinture. C'est super dangereux pour les camarades. Je rappelle qu'au Mexique, ce genre de meurtre arrive plus que régulièrement. À l'UNAM, les violences, elles sont quotidiennes. Les féminicides aussi. Le campus n'est pas du tout épargné. Le 20 août dernier, Miranda Mendoza avait été assassinée. Une jeune étudiante de 18 ans a été assassinée en sortant du campus. Elle avait été kidnappée par un de ses groupes armés. Il n'y aura jamais de volonté politique d'en finir avec les cartels, avec les bandes, les milices armées au Mexique, puisqu'ils sont le bras armé des capitalistes et des hommes qui sont au pouvoir. Et donc face aux poros, face à cette politique-là, les camarades sur place, notamment les Juntas Defensivas Universitarias qu'on avait fait venir ici l'an dernier et qu'on salue, ils appellent à construire immédiatement des groupes d'autodéfense qui réuniraient des étudiants et des travailleurs pour se défendre physiquement contre ces attaques aussi. Alors on leur envoie bien sûr tout notre soutien, et particulièrement à Naoum qui a été injustement cité par la presse bourgeoise dans cette affaire. Et on espère que qu'ils gagneront et que de nouvelles perspectives s'ouvriront pour eux dans le Mexique qui vient, et dont on ne manquera pas de parler, notamment parce qu'il y a une grosse période de transition qui s'annonce. On espère que pour les camarades, ça sera au moins le signe de quelques avancées pour leurs conditions de vie, et pour les meufs aussi, et surtout probablement.
Claro que si. Alors, on continue avec un sujet sur les élections européennes, plus particulièrement sur ce que commencent déjà depuis plusieurs semaines à nous rabâcher les médias de masse. Macron serait le leader des progressistes européens, rempart contre l'extrême droite européenne ou la droite nationaliste représentée par Salvini, Orban, Kaczynski pour la Pologne et consorts. Donc en effet, depuis plusieurs semaines, Macron a lancé clairement cette campagne pour les élections européennes en rencontrant ses principaux alliés potentiels du Luxembourg, de Belgique, du Pays-Bas, du Danemark, de la Finlande et bien sûr de l'Allemagne, puisque son modèle économique préféré, c'est celui de l'Allemagne, celui des travailleurs et des travailleuses pauvres. D'où la venue d'ailleurs de Merkel en partie ce vendredi 7 septembre à Marseille. Pour Macron, il s'agit de faire des tractations vis-à-vis de la CDU de Merkel. Donc il essaie ici, Macron, de se présenter comme le leader des progressistes face à des candidats nationalistes et racistes. Comme s'il existait une véritable fracture entre le capitalisme revendiqué par Macron, Merkel et consorts d'une part, et Orban, Kaczynski, Salvini et consorts d'autre part. Ou comme si la gestion des migrants était véritablement et profondément différente. Cette fracture qui divise à l'échelle européenne pour les élections, elle est mise en scène et amplifiée par les médias de masse. Or, les uns comme les autres ont le même objectif, enrichir toujours plus les capitalistes aux dépens des exploités. Les premiers, qui vont des sociodémocrates et par la social-démocratie européenne, j'entends même la gauche dite radicale dont on parlera tout à l'heure, jusqu'à la droite républicaine, utilisent l'extrême droite comme épouvantail pour garder le pouvoir ou y prendre une petite place. Les seconds, représentés par la droite nationaliste et l'extrême droite, exploitent les conséquences des politiques capitalistes ultralibérales des premiers, qui sont dictées par les marchés et des organisations supranationales d'une part, et ils utilisent aussi la criminalisation toujours plus conséquente des migrants d'autre part pour s'accaparer de plus en plus de voix. D'un côté, l'État se désengage au service des riches, de l'autre, l'État est fort au service des riches. Alors, du côté des hommes forts, des hommes forts entre guillemets, bien sûr, hein, on pourrait parler d'Orban, par exemple. Ils peuvent compter sur l'appui d'une fraction des classes dirigeantes. On l'a déjà vu dans l'histoire. Donc Orban, par exemple, il a dit il y a quelques années dans un discours retentissant, le nouvel État que nous construisons en Hongrie est un État illibéral, un État non libéral. Mais contrairement à ce que les grands médias ont rabâché depuis, ses objectifs ne se résument pas au refus du multiculturalisme, à la promotion des valeurs familiales et chrétiennes. Hein. Il annonce aussi un projet économique, et il est très clair, c'est celui de construire une nation concurrentielle dans la grande compétition économique mondiale des décennies qui viennent. Et ça, ça passe par le soutien inconditionnel d'une fraction de la bourgeoisie hongroise. L'autre bord ne cesse, lui, de répéter que la dictature nous menace et qu'ils et elles seraient le rempart contre la fin de la démocratie. Et pourtant, on le sait, hein, leur politique consiste à restreindre toujours plus nos libertés. Alors, on va avoir la semaine prochaine un dossier sur la loi Elan. On vous invite à écouter l'émission, puisque c'est une loi qui va restreindre profondément nos libertés et principalement celles des pauvres. On peut parler aussi des différentes lois antiterroristes de ces dernières années, etc. Alors que les libertés des flics, elles, continuent à être toujours plus importantes, ces politiques, elles nous répriment, elles emprisonnent, elles tapent sur les migrants, on l'a vu avec la loi Asile Immigration en France, des nouvelles dispositions des préfectures récemment, on va le voir avec un point notamment sur les comportements de la préfecture lyonnaise vis-à-vis d'un certain nombre de migrants, et à faire de nous des travailleurs toujours de plus en plus pauvres. Donc, en conclusion, par rapport à ce qui est en train de monter en puissance dans les médias, eh bien, tout ce petit monde est à peu près le même, ou plus ou moins le même en tout cas, mais il est à abattre, et ça ne passera certainement pas par les élections.
Et justement, en parlant de ce très artificiel clivage, notamment qui prend pour sujet l'immigration, ben on va parler maintenant du rôle que peut prendre la gauche radicale sur cette question de l'immigration. Un rôle, une vraie problématique en fait, qui n'est pas sans lien avec les difficultés grandissantes que connaissent les exilés aujourd'hui en Europe, dont on parlera notamment pour le cas lyonnais tout à l'heure. Donc en effet, on assiste dernièrement à une accélération, enfin moi je pense, d'une dynamique présente chez les mouvements dits de gauche radicale depuis plusieurs années, hein, une propension à rejoindre le consensus actuel anti-immigration. Donc bon, là, mon sujet sera plus un édito que de l'info pure, mais je vous en prie de m'en excuser. Donc oui, c'est un...
On verra à la fin.
Ouais, on verra à la fin, ouais, c'est ça.
C'est donc pas
c'est sûr. C'est un phénomène, bon, okay, franchement problématique, hein, parce que comme les partis de gouvernement, ces mouvements, maintenant, ils se retrouvent à reprendre plus ou moins des rhétoriques, des catégories de pensée, des raisonnements racistes qui ont été forgés à l'origine par l'extrême droite. Alors je vais vous parler en particulier de deux événements récents, la fondation du mouvement Aufstehen, qui signifie « debout » en français, par Sarah Wagenknecht, une des fondatrices de Die Linke en Allemagne, donc qui est l'équivalent de la FI, et les déclarations...
France Insoumise, ouais.
Oui, France Insoumise, vous aurez compris. Et les déclarations toujours plus ambiguës, bah, je sais pas, de Mélenchon sur l'immigration. Alors pour commencer par nos voisins germaniques, alors que la région de Saxe a connu récemment plusieurs manifs racistes de l'extrême droite, néo-nazis, cette figure donc de la gauche allemande a décidé de lancer un mouvement dont la ligne politique vise à conquérir les classes populaires, notamment en se distinguant du reste de la gauche avec une position anti-immigration assez sévère. Enfin, une ligne anti-immigration assez sévère. Elle dit s'opposer fermement à la politique d'accueil des migrants d'Angela Merkel, et la présente d'ailleurs comme un moteur pour l'extrême droite et puis également comme irréaliste. Par exemple, petit florilège de ces petites phrases. Par exemple, elle dénonce la bonne conscience de gauche sur la culture de l'accueil. Elle dit que prôner l'ouverture des frontières est une idée naïve. Ou alors, plus il y a de migrants économiques, cela signifie donc plus de concurrence pour les bas salaires dans les secteurs de l'emploi. Alors l'AFI, donc la France Insoumise, face à ces déclarations, elle est relativement perturbée. On a pu le voir pendant leur université d'été, enfin leur rentrée notamment. La question est en fait même carrément tendue. Hein. Mélenchon, il a bien essayé dans son discours de rentrer, de rassurer les militants sur l'accueil des réfugiés, tout en ajoutant par la suite, malheureusement, une phrase assez tendancieuse, hein, qu'il a d'ailleurs réutilisée ensuite dans un tweet. Alors, je le cite, il a dit « Oui, il y a des vagues migratoires. Oui, elles peuvent poser de nombreux problèmes aux sociétés d'accueil quand certains en profitent pour baisser les salaires, comme en Allemagne. » Nous disons honte à ceux qui organisent l'immigration par les traités de libre-échange et qui l'utilisent ensuite pour faire pression sur les salaires et les acquis sociaux. Bon, au-delà des problèmes de démocratie interne et de dirigisme dans le mouvement de Mélenchon, qui sont liés notamment à la nouvelle stratégie dite populiste de la gauche radicale, ce qui devient vraiment inquiétant, donc, c'est ses positions, ses discours portés sur l'immigration. Alors certes, hein, Mélenchon a des propositions et des discours favorables à l'accueil des réfugiés. Mais comme beaucoup de ses soutiens inconditionnels, que ce soit sur le net ou ailleurs, il a une fâcheuse tendance à réduire l'immigration à ce seul enjeu et à reprendre la bonne vieille antienne, enfin la bonne vieille distinction entre réfugiés et immigrants économiques. D'ailleurs, comble du foutage de gueule, ces mêmes soutiens du net ou d'ailleurs n'hésitent pas à défendre les positions donc, de Wagenknecht, l'allemande là, en arguant qu'elle, en cherchant à restreindre l'immigration, lutte réellement, contrairement au reste de la gauche, hein, pour défendre le droit d'asile. Alors la FI, elle est donc aujourd'hui plus ou moins en train de reprendre d'une certaine manière la ligne politique du Parti communiste de Marchais à l'époque, hein, qui stigmatisait les travailleurs immigrés comme responsables ou du moins outils de la destruction des acquis sociaux des travailleurs français. Alors derrière ça, se cache évidemment une stratégie bon, qui est purement électoraliste, qui en plus d'être lâche, bah, est vouée à l'échec. Parce que Marchais et le Parti communiste de Marchais n'a pas cessé de perdre du poids électoral dans les années 70 et 80, jusqu'à l'élection de Mitterrand. À vouloir surfer donc, sur l'air du temps, on se fait doubler en fait, au final par des formations politiques qui ont au moins, elles, le mérite de la cohérence politique. D'ailleurs, c'est leur seul mérite, hein. Et pour quelqu'un qui se fait le champ du progressisme, reprendre la stratégie réactionnaire qui vise à opposer les plus démunis est en fait un magnifique paradoxe et une manière assez maladroite d'esquiver un sujet jugé comme miné, donc celui de l'immigration. D'ailleurs, un sujet qui est miné au final que par la lâcheté que peut avoir la gauche là, sur ce sujet. Donc le raisonnement de ce tweet, de ce discours de Mélenchon, est particulièrement fallacieux, en particulier quand on se dit de gauche. Parce que mettre sur le dos des travailleurs immigrés la baisse des acquis sociaux et des salaires, bah, ça reste fondamentalement une grosse connerie. En effet, ceci n'est sûrement pas dû aux politiques successives des gouvernements convertis aux idées néolibérales, aux directives européennes, aux délocalisations, etc. Bon, bref, à l'organisation capitaliste de notre monde. Non, sûrement pas. Hein. Enfin, je veux dire, Mélenchon, quitte à parler des traités de libre-échange et de leur impact sur les travailleurs, il aurait très bien pu parler des clauses qui visent à simplifier la législation du travail, la disparition des dernières barrières douanières, la facilitation des délocalisations, mais non, lui, il choisit de parler de l'immigration. Donc oui, Méluche, il a beau présenter d'ailleurs ça comme une forme de manipulation des classes dominantes hein, via les traités de libre-échange, bah, il n'en reste pas moins qu'il présente les immigrés comme un vecteur de politique antisociale. Ce qui forcément appelle à agir d'une certaine manière dessus, et pas en luttant contre les causes profondes, comme pas forcément en luttant contre les causes profondes, comme peut le déclarer Mélenchon. Car on va pas être naïf, hein. Même imaginons qu'il y ait une résorption des sources de migration, que les flux vont pas non plus disparaître du jour au lendemain. D'ailleurs, la lutte contre le néocolonialisme et l'impérialisme, qui bien qu'indispensable, bah, chez Mélenchon, quand il se déclare vouloir lutter contre les raisons de l'immigration, bah, elle prend souvent des formes incantatoires qui sont quand même vachement ridicules, notamment lorsqu'il déclare être prêt à mettre fin au conflit syrien juste en débarquant. Voilà, il va arriver et il va dire « faut faire la paix » et le conflit va disparaître. Bref, je crois que je prends un peu trop de temps, donc je vais me permettre de raccourcir. J'ai pas mal de choses à dire là-dessus, mais bref, et un truc qui me pose problème, alors je reviendrai pas sur... fondamentalement, ça reprend la vieille antienne aussi sur la mise en concurrence, ça accepte comme un état de fait la mise en concurrence entre travailleurs français et étrangers. Donc d'une certaine manière, ça reprend un paradigme de pensée qui est propre à la bourgeoisie. Mais surtout, un truc qui me pose problème, c'est cette manière d'accepter comme un état de fait la xénophobie ambiante de nos sociétés. Et en fait, partir du fait, même tendance à naturaliser la xénophobie chez les classes populaires, comme si finalement elle n'était pas le produit de discours politiques, des discours médiatiques, de l'action de l'appareil d'État, etc. Et quand on a des ambitions antifascistes, c'est un vrai problème. Et l'enjeu de l'immigration, je pense, quand on se veut antifasciste, il est à saisir. Et un nouveau discours, si on veut pouvoir faire barrage à la fascisation de nos sociétés, donc un nouveau discours sur l'immigration s'impose.
Et c'est surtout pas par les discours patriotes de Jean-Luc Mélenchon et ses tweets « Oui, j'aime mon pays, oui, j'aime ma patrie » qu'on va s'en sortir. Et donc, on va écouter tout de suite « J'aime mon pays » de Sexy Sushi.
Sans transition.
Et non, sans transition, nous voilà de retour. Ça s'est terminé un peu brutalement. Et on passe tout de suite à l'actualité nationale. On va parler un peu des violences policières de cet été. Et elles ont été nombreuses.
De cet été, mais pas que. On va parler surtout donc de notre bonne vieille police française et de ses pratiques récentes ou pas. Vous avez peut-être vu ou entendu parler d'un documentaire diffusé sur Arte cet été et qui s'appelle « Dans la tête d'un flic ». Si vous l'avez raté, il est facile à retrouver sur Internet. Mais pour résumer, il s'agit du témoignage de quatre policiers dits « de terrain » sur les difficultés de leur métier, notamment les pressions et les situations difficiles psychologiquement qu'ils vivent au quotidien. Le documentaire est peut-être pas mal pour savoir ce qu'il y a dans la tête d'un flic. Mais il manque cruellement de remise en contexte puisque ce sont des témoignages sans commentaires ni comparaison avec la réalité. Ainsi, à un moment du documentaire, un policier donne son avis sur la légitime défense et affirme que la police utilise peu les armes qu'elle a à sa disposition, par peur de tuer ou blesser quelqu'un et de se faire, je cite, « broyer par la machine médiatique et judiciaire ». Et que les policiers sont donc obligés d'endurer insultes et crachats à longueur de journée sans réagir. Alors d'abord, c'est peut-être le seul policier de France à ne pas oser utiliser l'outrage qui permet à tout policier de sortir systématiquement vainqueur de toute confrontation orale. Mais surtout, qu'en est-il réellement de l'utilisation des armes par la police ? Il se trouve que l'IGPN, la fameuse police des polices, a rendu cet été son rapport annuel pour l'année 2017. Et pour la première fois, en plus de quelques chiffres sur l'équipement et l'utilisation qui en est faite par les policiers, elle a dû y inclure des chiffres sur les morts et les blessures causées par la police, ce qui n'était pas une obligation auparavant. Et dans ce rapport, on trouve beaucoup d'informations intéressantes, même si pas forcément très fiables, comme on va le voir. Bon, alors les chiffres. D'abord, en 2016 et 2017, il y a tout simplement une augmentation de 54% du recours aux armes à feu chez les policiers. Ce qui, entre parenthèses, n'a pas l'air d'aller dans le sens du témoignage dont je vous parlais à l'instant. Et puis, en toute logique, puisqu'il y a augmentation de l'utilisation des armes à feu, il y a aussi une augmentation du nombre des morts et des blessures causées par la police. Sur la période juillet 2017-mai 2018, donc même pas un an, nous sommes à 14 morts et une centaine de blessés. Majoritairement suite à des refus d'obtempérer, nous dit-on. Et Madame Morégé Guyot-Marc, j'ai sûrement écorché son nom, la directrice de l'IGPN, de préciser qu'il ne s'agit pas d'un recensement des bavures policières, puisque tous ces tirs ont été considérés comme de la légitime défense. Tiens donc, la machine judiciaire ne serait pas si impitoyable. L'argument de la légitime défense en cas d'utilisation d'une arme à feu par un policier est en effet presque systématiquement reçu par la justice. D'autant plus depuis février 2017, date à laquelle les règles de la légitime défense ont été élargies. Il est maintenant possible d'ouvrir le feu sur, j'ouvre les guillemets, un véhicule dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui.
Ça c'est drôle, oui. Leur vie. Sur...
Autrement, si quelqu'un risque de se blesser mais qu'on n'est pas sûr, on lui tire dessus pour éviter le suspense. Ou bien, si quelqu'un risque de blesser quelqu'un d'autre mais encore une fois on n'est pas sûr, pareil, on tire comme ça, on est sûr que blessé il y aura. Sans nous en donner les proportions, il est précisé que les morts causées par la police incluent des terroristes, certes après tout. C'est sur cet argument que les règles de la légitime défense ont été élargies. Mais on trouve aussi des gens qui se sont suicidés en voyant arriver la police, comme quoi il n'y a pas que les flics que la machine judiciaire angoisse. Et enfin, il y a des morts lors d'interventions, c'est-à-dire les accidents, entre guillemets. C'est par exemple dans cette catégorie que tombe la mort d'un jeune qui essaie son nouveau scooter et qui en perd le contrôle quand la police manifeste son intention de l'interpeller. Pour rester sur les morts, il faut bien noter que ces chiffres n'incluent pas les morts causées par la gendarmerie, qui n'est toujours pas obligée de les révéler. De 2016 à 2017, Le Monde estime bien que ces morts ont augmenté de 15%, mais je ne sais pas trop sur quoi ils se basent. Retour au rapport de l'IGPN, où on trouve aussi les chiffres d'utilisation de tout l'arsenal de répression policière, à savoir les lanceurs de balles de défense, donc les flashballs, dont l'utilisation a augmenté de 46%, ou les pistolets à impulsion électrique, aussi connus sous le nom de taser, qui eux ont gagné 20%. Mais savez-vous que l'utilisation des grenades de désencerclement ont baissé de 8%? Ce qui ne totaliserait que, pour 2017, 796 tirs de grenades. On a du mal à le croire quand on a vu ne serait-ce que les images de l'expulsion de Notre-Dame-des-Landes, quand on a lu et entendu les témoignages des occupants et manifestants. Est-ce qu'on se trompe complètement quand on a l'impression que ces grenades sont de plus en plus utilisées et dans des conditions de plus en plus dangereuses? Eh bien, peut-être pas, car il semblerait qu'à la police, on ne tienne pas bien les comptes. Ce chiffre devrait pourtant être facile à connaître, étant donné que chaque utilisation d'une grenade de désencerclement doit, normalement, être déclarée par son utilisateur dans un rapport qui présente les conditions qui l'ont poussé à l'utiliser. Chose qui semble être loin d'être systématique dans les faits. C'est ce qui a été dévoilé suite à l'enquête sur le cas d'un syndicaliste éborgné à Paris en 2016 par une de ces grenades. Il semblerait que les policiers n'aient pas besoin de déclarer avoir utilisé leur grenade pour en commander une nouvelle, et que cette déclaration, ils ne la fassent finalement que rarement. Mais alors, combien de ces grenades sont utilisées chaque année? La seule piste pour l'estimer est de se tourner vers les achats en grenades du ministère de l'Intérieur. Et celui-ci a récemment commandé pas moins de 40 000 grenades de désencerclement pour une période de 4 ans, soit la prévision d'utiliser 10 000 grenades par an. La commande a été justifiée par le projet de doter chaque agent de la BAC de 2 grenades. Alors déjà, au niveau des chiffres, ça ne colle pas. Il y a environ 4500 agents de la BAC en France. Si on leur donne tous 2 grenades, en imaginant qu'ils ont tous utilisé leurs grenades et que là, tout de suite, ils n'en ont plus et qu'il faut donc leur en donner 2 à tous, ça fait 9000 grenades. Et s'ils n'en jettent que environ 800 par an, comme le précise le rapport de l'IGPN, il n'y a pas besoin de rajouter 10 000 grenades au stock tous les ans. Mais surtout, maintenant qu'on sait qu'un flic peut commander des grenades sans justifier avoir utilisé les siennes, on peut imaginer des agents de la BAC se balader équipés non pas de 2, mais 3 ou 4, ou on ne sait combien, grenades de désencerclement. Bon, maintenant qu'il est clair que la police a de plus en plus recours et aux armes à feu et aux armes soi-disant non létales, penchons-nous sur la façon dont ils les utilisent. En 2016, l'ACAT a enquêté et rédigé un rapport sur les pratiques policières. Alors, l'ACAT, ce n'est pas une bande d'anarchistes qui détestent l'ordre et l'autorité. L'ACAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Bref, ils ne sont pas spécialement antipolistes et le rapport insinue parfois que la police, en fait, ils l'aiment bien. Précision pour mettre un peu en perspective, peut-être que si même ces gens-là ont des critiques à faire à la police, c'est que quand d'autres personnes le font, ce n'est pas une haine raisonnée de la, irraisonnée de la police. Le rapport en question est une étude basée sur des données récoltées par eux, et donc non exhaustive, étant donné que les données exhaustives ne sont pas publiques sur tout. Jusqu'à il y a peu, on ne savait même pas le nombre officiel de personnes tuées par la police. Sur les cas qu'ils ont recensés, de 2005 à 2015, pour la seule utilisation du flashball, ils ont trouvé un mort, 39 blessés graves, dont 21 éborgnés. Dans la majorité des cas, l'arme était utilisée en tirant dans une foule, ce que la CAD considère comme une utilisation dangereuse du flashball, si tant est qu'il puisse ne pas être dangereux de tirer sur quelqu'un avec un flashball. Il réclame son interdiction dans ce genre de contexte. Il énonce aussi un glissement de méthode dans la gestion des manifestations, des rassemblements et des émeutes. Alors que pendant des années, la police avait pour consigne de se contenter de maintenir la foule à distance, la CAT a constaté que la police était de plus en plus offensive et que les manifestants étaient facilement mis en joue. Augmentation de l'utilisation du flashball donc, mais aussi d'autres armes dites non létales qui, puisqu'elles sont considérées comme inoffensives, sont utilisées très facilement dans des situations où, il y a quelques années, la négociation verbale était privilégiée. Par exemple, le taser, dont l'autorisation d'utilisation par la police date de 2004 et dont la CAD dénonce l'utilisation systématique par certains policiers pour menotter plus facilement les personnes qu'ils souhaitent embarquer. Dernier point sur lequel s'indignent les chrétiens, ce sont les sanctions. Ils considèrent qu'elles sont opaques, rares et surtout bien trop clémentes. Sur les 89 cas recensés, seules 7 condamnations ont été prononcées et les condamnations sont faibles. Ils citent l'exemple de la petite fille de 9 ans éborgnée à Mayotte en 2011 lors d'une manifestation. Le policier responsable a été jugé coupable d'utilisation illégale de son arme et a donc été puni d'un blâme. La faiblesse de ces sanctions s'accompagne d'une forte solidarité entre policiers. En effet, pour poursuivre en justice un flic, il faut aller porter plainte et donc aller voir un flic. La CAT a recensé des cas de refus de prendre plainte, de nombreux cas où des policiers mentent pour protéger leurs collègues, des disparitions de preuves et surtout une majorité d'enquêtes bâclées. L'IGPN est d'ailleurs rarement saisie. Sur 5178 signalements d'usage disproportionné de la force, en 2014, seuls 32 ont mené à des enquêtes. Pour finir sur ce rapport, que vous pouvez facilement retrouver sur Internet sur l'intitulé « L'ordre et la force », j'aimerais vous citer deux exemples de jugement. Un policier qui a éborgné un enfant de 14 ans a écopé de 6 mois de sursis. Et lors de l'expulsion de Notre-Dame-des-Landes en 2014, un jeune qui a fabriqué et lancé un fumigène qui n'avait blessé personne, a écopé d'un an de prison ferme. Alors, quand on entend la police se plaindre d'avoir les mains liées pour mater la racaille, se plaindre de devoir essuyer injures et crachats à longueur de journée, sans pouvoir réagir, on a quand même envie de remettre les choses en contexte. Quand les injures pleuvent des deux côtés, parce que c'est le cas, quel côté a le pouvoir de frapper, dévisager, embarquer et livrer à la machine judiciaire? Qui subit et qui fait subir? Qui est armé? Et qui peut utiliser ses armes sans peur ou presque des conséquences? On est tout à fait disposé à croire qu'il est difficile de recevoir tous les jours toute la haine qu'il peut exister envers l'État et l'ordre social, mais cette haine ne vient pas de nulle part, elle vient des inégalités et de l'injustice qui règnent dans notre belle société. Elle ne disparaîtra pas en augmentant les moyens coercitifs, et ceux qui ne veulent pas la subir, cette haine ferait mieux de ne pas défendre les responsables. Je m'arrête sur ce petit conseil pour tous les policiers déprimés qui nous écoutent.
Spéciale dédicace. Et du coup, comme on a une disparition inquiétante dans le studio, on ne va pas pouvoir faire l'actualité locale, à moins que la personne en charge de le faire se dépêche. Et voilà, c'est merveilleux.
Et de toute façon, se dépêche tout court, car on n'a plus beaucoup de temps.
Alors, est-ce que vous m'entendez? Je teste le nouveau micro. Ouais, c'est nickel, il marche. Alors,
Donc, ah bah oui, mais c'est ça de sortir en plein milieu de l'émission, hein.
Oui, excuse-moi. Donc simplement, là, l'idée c'était simplement de revenir très rapidement sur ce qui s'est passé ce samedi où il y a eu une manifestation qui a eu lieu en fait, notamment entre Hôtel de Ville et Bellecour, qui était à la base un truc assez honorable, qui était la marche pour le climat, qui était dans une manifestation mondiale qui avait pour but de dénoncer en fait tout ce que cette artufrie autour des questions climatiques et tout est poussé vers des véritables politiques offensives sur ces questions-là. Sauf qu'en France, on a eu un événement qui est venu perturber tout cela, parce que hélas, au niveau international, c'était un peu un échec critique. Et en France, ben, nous avons eu notre homme politique, notre écolo tartuffe national, Hulot, qui a démissionné au dernier moment, ce qui a amené un véritable regain d'intérêt. Les Français, d'un seul coup, se sont trouvés une conscience climatique. Ce qui nous a amené ce week-end à avoir plus de entre 10 et 15 000 personnes à Lyon défiler dans les rues, ce qu'il faut l'admettre est quand même assez énorme vu nos dernières manifs syndicales. On n'a pas réussi à traîner autant de gens dehors. Et sauf que ce qu'il faut remarquer, c'est parce que certes c'est sympathique que beaucoup de gens soient dehors, mais la problématique principale est le mot d'ordre, qui était un mot d'ordre en fait d'apolitisme permanent, où il faut quand même imaginer que la première manifestation avait été posée par des gens proches d'Alternatiba et un certain nombre des Colibris et compagnie, donc qui est quand même très très loin d'être proche de l'extrême gauche, et que d'autres citoyens trouvaient ça quand même beaucoup trop politique et ont fait une contre-manifestation appelant à l'apolitisme en fait en s'habillant entièrement en blanc. Donc il y avait quand même une contre-manifestation à celle d'Alternatiba qui avait lieu, elle, cette fois place Bellecour.
C'est chaud, on est
très chaud, on est vraiment très bas. Il y a failli y avoir baston.
La démission de Nicolas Hulot, c'est
la Cour des Miracles. C'est la Cour des Miracles, il faut voir les slogans. Enfin, moi j'ai quand même pu voir des panneaux où il y avait écrit Monsieur Hulot, nous t'avons compris, nous sommes les derniers colibris. Enfin, ce qui est intéressant, donc, c'est voir en fait toute cette pseudo-écologie qui se revendique d'un apolitisme total, donc comme si en fait les véritables problèmes écologiques n'étaient pas du tout liés à une surexploitation des hommes, des femmes et de l'environnement, hein, mais que c'était juste quelque chose de tellement politique que Monsieur Hulot, qui quand même gagne des milliers d'euros tous les ans en vendant des shampoings qui sont quand même dénoncés comme étant toxiques encore par 60 millions de consommateurs, n'est pas du tout un homme politique avec des couleurs politiques.
Oui, mais c'est un perturbateur endocrinien quand même.
Bah, certains si, même, en fait. Certains si, c'est dire, il vend de la merde, il empoisonne la planète et se fait l'argent dessus en étant ministre. Donc en clair, en fait, c'était une grande, grande farce qui a été faite où il y avait beaucoup de monde et honnêtement, on ne sait pas trop ce que ça a donné parce qu'il n'y avait pas de mot d'ordre, en fait. Donc une fois de plus, nous vous avons fait de l'écologie sans mot d'ordre et sans véritable volonté de changement. Donc à suivre cette affaire, même si nous pouvons rester très pessimistes quand on voit que des centaines de personnes à la rue à Lyon en ce moment et qu'il n'y a pas grand monde pour les soutenir.
Et on va tout de suite passer à notre dossier qu'on va introduire juste un petit peu par une belle chanson.
Si vous ne le voulez pas, nous on est là. Pour l'honneur des cheminots et l'avenir de nos marmots. Même si vous ne le voulez pas, nous on est là.
Et donc on accueille un copain cheminot pour nous parler un peu de la répression suite au mouvement. Merci d'être là.
Salut. Merci. Alors, comment tu t'appelles?
J'ai le droit de dévoiler mon identité, j'appelle Clément.
Ouais. Alors, on t'a fait venir notamment parce que vendredi à Lyon, il y avait un cas de répression syndicale suite au mouvement des cheminots de ces derniers mois. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cas de répression syndicale, de comment ça s'est déroulé, pourquoi? Et j'imagine que tu en connais également d'autres à l'échelle nationale, et si tu peux un peu nous les détailler.
Ouais, bah écoute, le 14. Non, pardon, excuse-moi, je me mets en place.
Reprends.
Je reprends. Alors, on s'est retrouvés jeudi pour défendre notre amie camarade Christelle, qui est déléguée SUDRAI, qui est passée en conseil de discipline suite à des faits de grève. Donc, ce qui lui reprochait, c'est sur une manifestation. De la provocation de la part de sa manageuse, qui a été, elle a répondu par quelques noms d'oiseaux. C'est juste ça. Et donc menacée de radiation, radiation chez nous c'est le licenciement. Donc il y a eu un rassemblement en bas de la tour In City, où elle était reçue par la direction et accompagnée des délégués. On était environ 300, ouais. Des délégations qui sont venues d'un peu partout, à Paris... Nîmes aussi, il me semble, un peu toute la région Rhône-Alpes. Et on n'a pas encore la réponse définitive, mais on sait que la radiation est plus sur la table, en tout cas. Voilà. Ouais. La réponse définitive de la direction, ça sera dans un mois, 30 jours.
Ouais.
Mais normalement, Christelle est sortie d'affaire. Voilà.
D'accord. Bon. Déjà, ça, c'est un bon point, mais a priori, il y en a d'autres à l'échelle nationale qui subissent la répression suite au mouvement, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors, au niveau national, on a des chiffres. Bon, c'est un peu difficile à quantifier, mais les orgas syndicales font le boulot. Il y a 60 dossiers avec radiation possible, potentielle. Avec licenciement potentiel au niveau national. Donc là, la semaine prochaine, le 14 septembre, à 11h à Grenoble, vu qu'on est région Rhône-Alpes, il y a les 6 de Grenoble. Donc il y a Seb, Jérémy, Alain, Pierre-Yves, Bastoun et Pascal pour des faits absolument mineurs, c'est-à-dire sur des faits de grève, traverser les voies sans gilet orange, quelque chose que quand on est cheminot, c'est des choses qu'on voit absolument tous les jours, et utilisation d'un mégaphone. Agression sonore caractérisée, enfin voilà. Donc en gros, le dossier.
On connaît le dossier. Souvent des agressions sonores.
Hein. Voilà. Donc rendez-vous à 11h devant la gare de Grenoble pour soutenir les copains.
D'accord.
Ça, c'est le 14 septembre.
14 septembre, exactement. Voilà.
Pour les Lyonnais qui auraient des projets isérois.
Voilà. Si vous avez le pass illico solidaire, 90%, c'est 1,60€ pour aller à Grenoble. Il faut en profiter.
C'est 75% maintenant.
Ah oui, c'est vrai, notre cher ami Laurent Wauquiez.
Merci Laurent Wauquiez.
Ah ouais, ouais. Bah, mais en tout cas, profitez-en tant que ça existe. Hein.
Ouais.
Voilà.
C'est clair.
Et après, au niveau national, on a une tension réelle sur toutes les personnes qui ont participé à ce mouvement. Donc ça va du très simple mise au placard, c'est-à-dire t'auras pas ta formation, t'auras pas ta mutation, etc. Après, il y a aussi des vrais dossiers avec des sanctions qui peuvent aller sur la mise à pied, c'est-à-dire tu restes chez toi, t'es pas payé. Il y a toute une gamme de répression donc officielle, c'est-à-dire où tu passes devant tes chefs, devant la direction, etc. Là où c'est défendable par les syndicats, et la répression, disons, masquée, qui est simplement sur un traitement différent vis-à-vis de nos chefs et de la direction. Quoi. Voilà.
Ouais. Par rapport à ce mouvement-là, on voit qu'il y a des cas de répression évidentes, des cas de répression subis. En cette rentrée, disons, qui est pour vous d'ailleurs pas une rentrée, mais bon, pour beaucoup qui est une rentrée, mais disons que depuis cette fin de mouvement, quelles sont les perspectives potentielles? Quels sont les objectifs? Y en a-t-il encore? Par exemple, est-ce que il va y avoir des mobilisations cette année? Est-ce que les cheminots ont encore la force, tu le sens ou pas, d'être un peu dans le game? Ou c'est compliqué?
Écoute, moi, je suis pas Madame Soleil, ouais. Donc je ne saurais pas trop te dire. Après, je pense que sur la répression, il y a une stratégie. Alors, c'est mon avis personnel, hein, c'est-à-dire que. Là, nos prochaines mobilisations, et depuis plusieurs mois, nos mobilisations sont des mobilisations défensives. C'est-à-dire, on est obligé, parce que ça pourrait être n'importe qui d'entre nous, des faits qui sont reprochés à certains camarades, ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui. Donc, on ne peut pas laisser tomber là-dessus. Et en fait, je pense que la direction le fait sciemment, même si derrière, ils savent que potentiellement, ils vont se faire ramasser, que ce soit... en conseil de discipline ou au prud'homme derrière, etc. S'il faut continuer, on continuera. Mais que ça mobilise nos organisations syndicales. Et pendant qu'on est en train de défendre nos camarades, on n'est pas en train de revendiquer. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est mon opinion personnelle. Mmh. Et après, bien sûr, sur l'effet démobilisateur, sur les collègues qui étaient parfois primo-grévistes, qui n'ont pas forcément le même niveau de... conscientisation syndicale, politique, ça fait très peur, quoi, parce que, en gros, tu dis, ouais, mais attends, si je fais quoi que ce soit, je vais me faire taper sur la tête, et c'est ta vie qui est en jeu, quoi, donc ça démotive aussi, nous, au niveau de l'organisation syndicale, on passe énormément de temps à défendre les copains, les camarades, et, je suis syndiqué CGT, j'ai pas précisé, hein, mais j'en parlerai après,
ouais.
Mais... voilà, ça nous mobilise là-dessus, ça casse le moral, mais voilà, on continue et on sera présent sur la manif du 9 octobre, sur toutes les mobilisations pour défendre les copains, les camarades. Alors moi, j'espère bien sûr qu'on a un automne social, que ça bouge dans ce pays, parce que voilà, nous, l'attaque qu'on subit à la SNCF, on le disait au début du mouvement, on était à la dernière digue, voilà, avant le raz-de-marée libéral. Ce qui vient derrière, c'est juste atroce. Nous, on le voit, on est en train de casser nos métiers, de vendre nos gares. Alors, Paris-Gare du Nord, maintenant, c'est Auchan. Ouais. La gare de Strasbourg a été rachetée par je ne sais plus qui. À mon avis, vu qu'on est local, Lyon-Part-Dieu, ils attendent la fin des travaux, mais il y a forcément des gens qui ont les yeux dessus. Voilà. Nous, ce qu'on défend, c'est le service public, c'est nos gares, nos facs, nos hôpitaux. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pas pour nos soi-disant privilèges. On est même pas très bien payé, vu les contraintes des boulots qu'on fait. Et on se bat pour une idée, quoi, pour le commun. Voilà, c'est ce qui nous motive. Alors bien sûr, ouais, moi j'espère qu'on arrive à faire ce qu'on n'a pas fait depuis déjà maintenant. La loi El Khomri, on parlait de convergence des luttes. Là, avec les étudiants Parcoursup, on en parlait encore. Moi, j'espère que ça viendra, mais voilà, c'est ce qu'on espère et on sera là. On est encore là, quoi.
Mais surtout que là, comme tu disais, hein, a priori, ça ouvre aussi un grand cycle de libéralisation partout. Et visiblement, ce qui est en train de se passer à la RATP va complètement dans ce sens-là, puisque arrive le même genre de...
L'ouverture à la concurrence, très clairement. La RATP à Paris, c'est une nouvelle loi, là. Donc, vu que les digues des cheminots, comme tu disais, ont été en partie rompues, ils vont pouvoir... tranquillement, enfin on l'espère pas tranquillement, mais eux le pensent, continuer le rouleau compresseur ultralibéral.
Et on espère que les mobilisations collectives à venir, notamment aussi contre la loi Elan qui s'attaque encore aux plus pauvres d'entre nous, vont permettre de le stopper un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, et on souhaite beaucoup de courage à tous les cheminots qui se retrouvent victimes de la répression aujourd'hui et qui se retrouvent en galère. On appelle vivement les camarades qui le peuvent à se rendre le 14 septembre. À quelle heure, tu disais ?
À 11h devant la gare de Grenoble.
Voilà, et n'oublions pas aussi que dans les grandes réformes à venir, il y a la réforme de la sécurité sociale et des retraites, et qu'on aura peut-être de quoi faire un gros front commun public-privé à ce moment-là. Donc, il ne faut pas désespérer. Hein.
Et du coup, on va terminer par l'agenda. Et demain, on va pouvoir mettre cette solidarité en pratique, puisqu'il y a un rendez-vous à 9h30 devant Promocash.
On sera là avec les cheminots.
Voilà.
Ils seront là.
Donc Promocash, c'est 20 rue Paul Massimi, dans le 7e, donc au métro Jean Jaurès. Et donc c'est l'ULCGT 7-8 qui appelle à ce rassemblement. C'est pour soutenir un camarade qui est victime de répression syndicale encore, un ancien délégué du personnel qui a 25 ans d'ancienneté chez Promocash et qui a été mis à pied à titre conservatoire. Il est convoqué demain à un entretien préalable de licenciement. En fait, la direction a simplement attendu qu'il ne soit plus d'épée pour entamer cette procédure. Donc on ne sait même pas visiblement ce qui est reproché vraiment à Olivier. Donc on appelle tout le monde à se rendre à 9h30 devant le Promocash du 7e, 20 rue Paul Massimi. Pour le reste de la semaine, lundi à 14h, donc nous serons le 17, il y a un rassemblement devant la métropole qui est organisé entre autres par les Amis des mineurs isolés. Donc c'est un rassemblement contre pour l'hébergement des mineurs. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est toujours autant la galère pour ce qui est de l'accueil des mineurs et des familles à Lyon, et il n'y a pas du tout de place. Et les derniers squats ont été expulsés, qui hébergeaient des mineurs, ont été expulsés. Du coup, voilà, on appelle tout le monde à être présent à 14h lundi 17 devant la métropole qui est rue...
C'est trouvable sur Internet.
À l'angle de la rue Garibaldi et de la rue de la Pardieu. Ouais. Voilà.
Alors, en autre date, il y a le 26, alors c'est dans quelques semaines, hein, le 26 septembre, mais une mobilisation aussi en solidarité avec un certain nombre de personnes qui sont dans le cadre de la procédure Dublin et qui sont donc expulsables dans le premier pays de l'Union européenne dans lequel ils ont été contrôlés. Et on essaie de les faire passer.